Coulam.
Priorité au direct sur Coulam Radio. Vous le savez, on vous l'annonce depuis hier, notre invité aujourd'hui au micro de notre ami Claude Barouge, président de l'UPJF, l'Union des patrons et professionnels juifs de France. Eh bien, c'est notre ami Claude Goasguen. Donc, sur Coulam, on fait toujours les choses bien. C'est-à-dire, on vous donne deux Claude pour une demi-heure d'info.
D'accord.
Avec Claude Goasguen, interviewé par notre ami Claude Barouge.
Bonjour à tous. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir mon ami Claude Goasguen, député du 16e arrondissement, et qui va se présenter avec une liste assez exceptionnelle dans le 16e arrondissement. Et bien sûr, ces élections qui vont avoir lieu dimanche prochain nous mettent tous sur la voie que nous ouvre Claude Goasguen, puisque nous sommes tous derrière lui et que nous avons décidé évidemment aujourd'hui de faire le point sur la campagne et de faire le point sur ses motivations. Alors d'abord, Claude,
oui.
Je voudrais savoir quel est l'enjeu de ce scrutin à Paris, et plus particulièrement dans le 16e arrondissement.
Alors à Paris, il est fondamental cet enjeu, parce que d'abord, Hidalgo est très contestée. Elle est contestée un peu de partout, parce que sa politique, à mon avis, a été trop autoritaire, sectaire, idéologue. Et elle est contestée à gauche et à droite. Et puis, il y a une certaine lassitude. Je crois que les Parisiens veulent changer. C'est important parce que ça fait quand même un petit moment que la gauche occupe Paris et que le résultat n'est pas vraiment très satisfaisant pour une grande métropole. Donc nous avons eu la chance de rencontrer une bonne candidate, ce qui arrive rarement à Paris, puisque la droite a ce chic de perdre Paris régulièrement à cause de ses divisions ou bien de ses mauvais candidats. Et c'est Rachida Dati, avec qui je n'étais pas au mieux. Mais j'ai trouvé que cette femme était tellement courageuse d'y aller toute seule. À un moment, elle était à 8%. Elle m'a téléphoné, alors qu'on était fâchés depuis des années, que je l'avais maltraitée comme garde des Sceaux, quand j'étais à la commission des lois.
Je m'en souviens.
Je me suis dit, on va l'aider. Je vais l'aider. Et puis alors, je me suis rappelé en moi-même que c'était finalement dans ces moments-là que la politique était agréable. Quoi. On prenait un candidat très bas, Chirac. Et je me retrouve ministre de Chirac, alors que j'étais persuadé de foutre le camp à Sainte-Hélène avec l'empereur. Quoi.
Alors c'est notre ami Francis Piner qui va conduire la liste officielle des Républicains et du Centre dans le 16e arrondissement. Francis Piner n'est pas très connu dans notre arrondissement, c'est un avocat exceptionnel,
connu,
au talent que personne ne peut lui contester. Il arrive... C'est que vous avez sûrement une idée derrière la tête. Comment va s'organiser cette liste derrière Monsieur Spiner? Mais vous pouvez nous parler deux minutes de Francis Spiner et expliquer?
Oui. D'abord, je vais vous expliquer. Moi, je ne peux pas être candidat, puisque
bien
la
sûr.
Loi me l'interdit. Je reste député. Et donc, il a fallu, au fond, chercher quelqu'un qui était représentatif du 16e et qui était capable de faire porter la voix du 16e. Je le dirai tout à l'heure. Le 16e, c'est pas un arrondissement comme les autres. C'est un arrondissement... Il y a une politique locale, mais en même temps, c'est un arrondissement qui est tellement important sur le plan international que c'est là qu'on peut passer les grands messages. Gilad Shalit, les chrétiens d'Orient, etc. C'est-à-dire un arrondissement qu'on ne peut pas retrouver à Paris. Alors, le parti était en crise, car nous avions subi deux défaites importantes, les présidentielles, et puis les européennes, et parfois la direction de la mairie du 16e, que j'avais laissée pour la première adjointe, n'allait pas, car les adjoints ne s'entendaient pas avec elle. Et quand je suis revenu, il n'y avait plus d'adjoints, quoi. Il n'y avait plus de majorité. Donc, on a essayé, avec toute l'équipe nationale, de mettre en place quelque chose qui corresponde à peu près à ce qu'on souhaitait. Qui est Spiner? Spiner, c'est quelqu'un, c'est un avocat, un grand avocat. Et c'est surtout quelqu'un qui, moi, a des idées sur l'antisémitisme et sur la défense de la communauté juive, pas seulement dans le 16e, mais partout, on est très proches. C'est un homme qui s'est toujours battu.
Vous avez réussi tous les deux à faire signer un document à Madame Dati, dont vous m'avez parlé hors antenne, qui est exceptionnel, dont on va parler tout à l'heure.
Ah oui, absolument.
Mais au préalable, est-ce que vous pouvez nous parler des autres personnes qui sont présentes sur la liste officielle des Républicains et du Centre?
Alors, on a une belle liste. On a Jérémy Redler, qui est très connu dans la communauté juive et qui travaille.
C'est un homme de terrain fantastique.
Un homme de terrain formidable, formé, bien formé, par moi-même.
Par Claude Goasguen.
Et qui est appelé à de grandes destinées un peu plus tard, quand je serai parti. Mais on a aussi une femme courageuse, qui est Madame Le Couturier, qui est très attaquée, qui est restée centriste et qui s'est fait attaquer alors qu'elle a voté Sarkozy, etc., et qui est restée fidèle. Et donc, c'est une centriste comme on les aime, quoi. Hein. Et puis, on a une liste qui est composée à la fois des anciens adjoints, c'est-à-dire des gens d'expérience, et puis plein de gens qui représentent la société civile.
Il y a un homme magnifique avec vous, c'est le professeur Emmanuel Messas.
Ah, mais lui, c'est...
Emmanuel Messas, je lui dois grand-chose de ce qui me reste à vivre.
Ah oui, non, mais vous inquiétez pas, on lui doit beaucoup, car Emmanuel, c'est Emmanuel, quoi. C'est une personnalité majeure de la famille Messas, avec qui j'ai des liens d'amitié depuis longtemps. Et franchement, il n'était pas très disposé à se présenter, parce qu'il en a un peu assez. Et puis il a
parce
des charges.
Il est surtout surchargé.
Oui, c'est ça. Professeur agrégé de médecine, grand cardiologue. Et donc, j'ai été lui dire, on a besoin de toi. Et il sera sur la liste.
C'est magnifique.
Et ce sont des belles personnalités. Et en même temps, vous avez là des présidentes de parents d'élèves. Vous avez des gens de la société civile. Un boulanger, un président des commerçants d'Auteuil. On a essayé de faire une liste qui soit à la fois dans nos opinions, et qui en même temps représente toute la société.
Alors,
du 16e.
Je voudrais juste vous arrêter deux minutes.
Allez-y.
C'est quoi les attributions exactes du maire? Parce que j'ai assisté à certaines réunions où on vous reprochait la malpropreté, le manque de sécurité. Quelles sont les attributions du maire et qu'est-ce que vous allez faire? Cette liste qui vraiment est une vraie liste et une belle liste, qu'est-ce que ça va être son boulot? Quelles vont être ses attributions, si je puis dire?
Écoutez, le maire, en réalité, moi j'ai pu faire exister la mairie parce que j'étais député. Le maire n'existe pas juridiquement, le maire d'arrondissement. Mmh. Quand vous dites ça aux gens, ils ne vous croient pas. Donc comme il n'existe pas juridiquement, c'est la loi PLM, il n'a aucun pouvoir. Donc la mairie d'arrondissement n'a qu'un pouvoir consultatif sur le Conseil de Paris et la maire de Paris. C'est-à-dire que si vous êtes dans la bonne majorité, ben vous avez tout. Et si vous êtes dans la mauvaise majorité, vous n'avez rien. Ce qui nous est arrivé depuis 10 ans. Ce qui fait que le 16e, depuis la droite d'ailleurs ayant le même défaut, le 16e est toujours laissé de côté. Parce que le 16e, quand la droite est au pouvoir, même Chirac, que j'aimais beaucoup, trouvait que c'était pas la priorité, puisque au fond le 16e votait à droite. Puis après, quand Delannoy est arrivé avec Madame Hidalgo, Delannoy avec beaucoup de talent, un chanteur de Mexico, comme je l'appelais, mais quand même le 16e était toujours défavorisé. En réalité, la vraie question de Paris, c'est qu'il faut désormais que les arrondissements aient des pouvoirs. Et enfin, la gauche a compris ça, et même Madame Hidalgo. Sur la propreté, on ne pourra pas continuer à avoir une ville propre pour 2 millions d'habitants gérée au niveau de la mairie de Paris. On n'y arrivera pas parce que la saleté...
Donc
c'est
il faut élargir vos attributions.
Voilà, il faut élargir sans casser l'unité de Paris. C'est un mécanisme juridique assez complexe, mais il faut donner des pouvoirs d'intervention rapide en matière de propreté, il faut donner des pouvoirs en matière de sécurité. On voit bien que la préfecture de police n'est plus en mesure d'assurer la sécurité des arrondissements. Moi, la porte de Saint-Cloud, chez moi, ça devient, je vous dis, des bagarres permanentes.
Vous m'avez parlé hier de problèmes rue de Boulevard.
Le préfet de police, il me parle comme si c'était acquis de la bande de la porte de Saint-Cloud. Je dois dire que moi, qui ai été élu député il y a 10 ans, j'aurais jamais imaginé que le préfet de police peut parler de la bande de la porte de Saint-Cloud. Donc, on a besoin de pouvoir en matière de sécurité, on a besoin de pouvoir en matière de propreté, on a besoin de pouvoir un peu plus consultatif en matière d'urbanisme, parce qu'on nous a collé tout ce qu'on a pu nous coller. Passons, je préférerais quand même qu'on ait la possibilité sur une majorité qualifiée, enfin vous verrez les propositions. Il faut faire exister les maires d'arrondissement. Sûrement dans une phase intermédiaire, parce que dans quelques années, probablement le Grand Paris remplacera tout ça. Mais pour le moment, déjà, si on avait des arrondissements
juste
qui
en
existent...
Deux, juste oui. En deux mots, Claude Guesquen, dites-moi, à partir du moment, comme je l'espère et je le dis ouvertement, vous êtes demain sur la liste qui gagne ces élections,
oui.
Est-ce que vous pouvez en trois mots dire à nos auditeurs quels sont vos projets pour améliorer la vie dans le 16e arrondissement?
Mais d'abord, moi je m'occuperai de la sécurité Porte Saint-Cloud, parce que ça dérape. Après, j'essaierai d'imposer des règles de propreté à la future maire. Ce sera plus facile si on a Rachida Dati que si on a Hidalgo, mais il faut le faire. Et puis, l'urbanisme, il faut sauver, par exemple, le bois de Boulogne. Le bois de Boulogne, c'est épouvantable, le bois de Boulogne. C'est pas à peine de parler des Strasbourg et de laisser le bois de Boulogne comme ça. Et puis, d'avoir un urbanisme qui corresponde. Vous savez, le problème de la gauche, c'est qu'ils veulent qu'on soit tous pareils. Ils n'ont pas reconnu une certaine spécificité. C'est pas faire du racisme ou de la xénophobie. C'est que chaque arrondissement, c'est ce que disait Hemingway, vous savez, dans un grand livre. Paris, c'est 20 villes, 30 villes, 80 quartiers, tous différents. Moi, j'aime la différence de Paris. Et dans le 16e arrondissement, on a une différence qui ne plaît pas à tout le monde. Mais je trouve que cette différence on y tient, car elle apporte quelque chose. Il y a des beaux hôtels que j'ai réussi à faire construire, non sans mal. Il y a une animation qui est insuffisante. Moi, je mettrais par exemple des terrasses de café, peut-être un peu plus nombreuses, parce que j'en ai un peu marre que la jeunesse du 16e...
Je me souviens qu'en passant devant Montsaufleur qui vient de fermer ses portes, vous m'aviez dit, Claude, il nous faudrait un restaurant
voilà,
ici.
Ben voilà, ben il y est. Vous avez vu?
Voilà.
Il va y avoir un très bon restaurant. Il va y avoir... Alors, bah, évidemment, c'est pas le 16e habituel, mais c'est un 16e jeune. Le 16e a complètement changé. Moi, je suis pour que la jeunesse du 16e reste un peu dans le 16e, quoi. Parce que sinon, ils portent dans le centre de Paris.
Justement, vous parlez de la jeunesse. Oui. Vous me faisiez part samedi, nous parlions ensemble, et vous me disiez, je comprends pas les jeunes. Je comprends pas qu'ils soient pas sur le terrain. Je comprends pas qu'ils ne se rendent pas compte que notre pays est en train de traverser une période difficile et donc on a besoin d'eux.
Ah oui,
est-ce que vous pouvez me dire comment vous pourriez les motiver?
Je pensais surtout aux jeunes de la communauté.
Oui, bien sûr.
Mais les autres, pareil.
On était dans une synagogue. Donc
oui, on était dans une synagogue. Moi, je trouve que les jeunes n'ont pas conscience qu'en réalité, au-delà du climat, de la climatologie, ils ont certainement raison, ils ne se rendent pas compte que le monde est difficile. Et que cette Europe qui est en train de se transformer avec le monde crée des tensions considérables et violentes. Et que nous sommes on va vers des années violentes. Et donc, bon, ils s'amusent, ils ont raison, ils croient qu'il suffit en réalité d'embrasser tout le monde pour que ça se passe bien. Mais ça ne se passe pas bien. Et ça ne se passera pas bien. Moi, je suis à la Commission des Affaires étrangères, je sais que ça se passera pas bien. Et c'est la raison pour laquelle j'avais un peu dit aux jeunes de la communauté, ne vous trompez pas. Ça ne sera pas facile. L'antisémitisme en France est en train de renaître parce qu'il y a une crise économique profonde et que vraiment
qui
on est en train
de là.
Qui va s'accélérer, bien sûr, parce que lorsqu'il y a crise économique et sociale, les pays se tournent toujours vers les mêmes problèmes, c'est-à-dire c'est toujours l'antisémitisme qui revient. Et moi, je le sens revenir cet antisémitisme. Eux non. Eux, ils pensent parce que vous voyez cette sympathie de la jeunesse, ça tout devrait s'arranger. Et je leur dis attention. Attention, l'antisémitisme, c'est quelque chose de fragile. C'est la raison pour laquelle on a mis en place ces structures que je crois la grande nouveauté de cette campagne. Et vous verrez que quel que soit le résultat, les autres villes vont nous inviter et que on fera un peu comme les Américains, car les Américains, de ce point de vue-là, ont été plus vite que nous. Je peux en parler si vous voulez.
Je voudrais que vous en parliez. Alors, je voudrais que vous en parliez parce que c'est une nouvelle magnifique. Si elle est appliquée, parce qu'on a vu une loi antisémitisme et antisionisme jamais appliquée à l'Assemblée.
Ah non, mais là, c'est pas. Moi, ma thèse, c'est que l'antisémitisme est devenu quelque chose de banal. Et que c'est dramatique. Et que je ne pouvais pas imaginer dans ma carrière politique, moi qui suis venu un peu dans le 16e pour ça, qu'un jour j'entendrais mort aux juifs dans les rues, qu'on tuerait de manière barbare. Parce que les gens étaient juifs, avec des antisémites de droite, de gauche, d'islamistes, en fait, de toutes les couleurs, qui se retrouvent dans la haine du juif. Et c'est devenu tellement maintenant quelque chose d'ancré que quand il y a des actes antisémites, on va à la police, elle ne reçoit même pas. Les magistrats, ils jugent comme vous voyez. Et qu'en réalité, tout ça fait que nous sommes en train de nous habituer à une espèce d'antisémitisme quotidien que la presse, d'ailleurs, reproduit, parce qu'on n'en parle plus. Quand vous avez des attentats antisémites dans le nord de Paris, dans le 16e ou ailleurs, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'en réalité, on a une espèce d'acceptation de l'antisémitisme basique. Or, cet antisémitisme basique, moi qui connais l'histoire, c'est le foyer même de tout antisémitisme meurtrier. C'était comme ça en Allemagne, c'était comme ça en France en 1930 et 1935, et c'est comme ça que ça s'est terminé, comme vous voyez. Alors j'ai dit, moi j'ai vu Rachida, qui a été formidable là-dessus, j'étais pas sûr d'y arriver, j'ai dit, ben, les mairies, au lieu d'être des lieux administratifs, vont être aussi des lieux d'esprit public. Je dis bien esprit public parce que pour moi, ça dépasse la politique.
Bien sûr.
L'esprit public, ça veut dire qu'il y aura dans chaque mairie d'arrondissement un référent qui sera chargé uniquement de s'occuper de l'esprit public concernant l'antisémitisme dans l'arrondissement.
Comment ?
Eh bien, très simplement, en mettant autour de lui une équipe qu'il réunira et qui viendra dire ce qui s'est passé. Tel à qui on a arraché la kippa. Tel dans tel immeuble qui fait des réflexions antisémites pour sortir, tel qui crache à la figure, tel qui moleste une vieille dame.
Et quels sont ces moyens d'action ?
Ces moyens d'action sont considérables, parce que là, ça devient institutionnel. C'est-à-dire que là, c'est le maire qui porte. C'est plus la personne qui va pas au commissariat pour se faire foutre dehors. C'est le maire qui porte tous les mois au commissariat les revendications et qui, au niveau de la mairie de Paris, tous les trois mois, fait un grand... un grand raout de manière à dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on va intégrer l'antisémitisme ordinaire, on va obliger les officiels à réagir. Et croyez-moi, c'est un très beau combat. Moi, j'adorerais être le référent. C'est une passion. Et vous verrez que Paris, qui est en train de devenir une ville antisémite, hein, redeviendra peut-être la ville.
L'antisémite vient d'où, selon vous ?
Hein ?
L'antisémitisme lequel ?
Oh, c'est islamiste, quoi, soyons clairs. Bien sûr, il y a des antisémites de droite, de gauche. Mais on voit bien que l'antisémitisme est lié à l'antisionisme, qu'il est lié à la présence d'une communauté musulmane fortement pénétrée de salafisme et qui, par conséquent, se libère contre Israël, mais qui en réalité
cela
se libère contre le juif.
Cela vous choque qu'on parle encore du vivre ensemble ? Comment peut-on vivre ensemble dans les conditions que vous venez
d'évoquer ? Je viens de vous le dire, moi. On vivra ensemble lorsque on fera au niveau basique une vraie politique d'esprit public. Si vous limitez à la police et aux magistrats, on n'y arrivera pas. Pas seulement la sanction. Il faut qu'il y ait des gens qui disent « Bon, écoutez, ça suffit, là, vous le type du troisième étage, là, qui nous emmerdait toute la journée à crier contre les juifs ». Dites tout ce qui va pas, hein, voyez. C'est comme ça que ça va se faire. C'est pas par la répression, mais c'est un long travail. Mais c'est l'œuvre du serpent. Vous connaissez l'œuvre du serpent. Il est là, le serpent. Il y est, hein. Moi, je le vois. Et je l'imagine pas, je le vois. Eh bien, cette œuvre du serpent, c'est comme ça qu'on va le réguler à Paris. Dans le 16e arrondissement, mais tous les candidats dans les arrondissements ont signé ma requête avec Rachid.
Dans les 20 arrondissements.
Dans les 20 arrondissements. Et croyez-moi, il y a des arrondissements où ça ne sera pas triste à faire, hein, parce que le 19e et le 20e, il y aura du travail. Mais je trouve qu'une association de la population, je trouve que les mairies ne font plus, ils font que de la politique, les mairies, de temps en temps, mais en général pas du bon côté. Mais l'esprit public, c'est pas ça. Avant, une mairie au 19e siècle, c'était l'endroit de l'esprit public, où on venait discuter ce qui n'allait pas dans les mairies, quoi. On n'aurait jamais laissé faire ça. C'est pas possible. Et aujourd'hui, on a l'état civil, le logement, etc. Mais c'est pas ça une mairie. Une mairie, c'est aussi un endroit où on voit comment évolue la population. Dans le 16e arrondissement, nous, on a de la chance. Et souvent, les jeunes ne se rendent pas compte.
Bon, j'allais y venir.
Que dans le 16e arrondissement, c'est différent et qu'ils devraient penser un peu plus à leurs amis qui sont dans le 19e, qui sont en Seine-Saint-Denis, voire même, comme je leur dis, aux jeunes Israéliens qui, à 20 ans, montent au front pour essayer de défendre les frontières d'Israël. On voit bien que partout, l'agressivité à l'égard du juif et d'Israël est encore très forte, que par conséquent, dans le 16e arrondissement, moi je m'en félicite, c'est un peu mon succès personnel, mais je ne voudrais pas que mon succès personnel et le fait qu'avec la communauté juive du 16e, on ait réussi quelque chose de bien, endorme en se disant « bon, maintenant ça va, on peut faire n'importe quoi ». Et bien voilà, voilà tout le combat.
Revenons justement dans le 16e. Vous le disiez tout à l'heure, deux listes dissidentes de droite se présentent contre votre liste, celle conduite par Francis Piner. Et puis il y a une ancienne maire adjointe, je crois, hein,
qui était mon adjointe,
en charge de la culture, me semble-t-il, qui se présente sous la liste RM.
Oui.
Moi j'ai deux choses à vous dire. Pourquoi est-ce que... Je pense que la meilleure défense, c'est l'attaque.
Oui.
Aujourd'hui, sur RM... J'aurais beaucoup à dire si j'étais l'homme politique. Ben oui. J'aurais beaucoup à dire sur M. Macron.
Je le dis comme député.
Et notamment, oui, je sais, c'est pour ça que je me permets d'insister sur ça. Je dirais à cette jeune dame qui se présente sur RM aujourd'hui et qui tourne dans les synagogues, à juste titre, et qui est bien accueillie d'ailleurs, dites-nous, qu'est-ce qu'il a fait, ce président de la République, pour nous ? Quand est-il allé en Israël ? Il est allé en Israël que pour assister à la cérémonie de la Shoah.
C'est le seul président qui n'a pas fait.
Qu'est-ce qu'a fait la France de Macron, en qui on croyait beaucoup ?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle a fait Israël ? Et qu'est-ce qu'elle a fait pour la communauté juive ? Puisque moi, je peux le dire aujourd'hui. Il y a des députés RM qui ont dit à M. Maillard qu'ils ne voteront pas la loi anti-sionisme antisémitisme et qu'il n'aura pas la majorité pour le faire. Quelle raison ai-je d'aller voter aujourd'hui pour RM dans ces conditions?
Écoutez, moi, du coup, ce que vous dites, ce que tu dis, pardon, est tout à fait ce que je pense. Je trouve que Macron n'a même pas réussi à imposer le quart de son discours qu'il avait fait au CRIF. Car les députés En Marche à l'Assemblée nationale ont refusé de suivre.
Bien sûr.
Ce qui, normalement, devait être un projet de loi décisif, pour la progression de la lutte contre l'antisémitisme est devenue une résolution, c'est-à-dire un acte bidon qui n'a aucun pouvoir exécutif et encore dans des termes qui fait en réalité on n'a rien fait du tout.
Plat que ça sert à rien.
Macron n'a jamais été en visite officielle. C'est le seul président qui n'a pas été en visite officielle en Israël.
Absolument, c'est ce que je disais. Oui.
Et je peux vous dire que je travaille avec le Quai d'Orsay, avec lequel j'ai beaucoup de relations.
Parce que vous êtes dans la commission des affaires étrangères.
Mais le Quai d'Orsay ne comprend pas que la situation au Moyen-Orient a complètement évolué. Et que la politique arabe, qui était peut-être défendable, et encore sûrement pas d'ailleurs, il y a quelques décennies, a aujourd'hui complètement transformé. Le monde arabe, c'est le rapport qu'un jour je viendrai commenter devant vous, ce que j'ai rendu. Les sunnites sont favorables à Israël. Il y a des conditions de paix qui sont en train de s'établir, qui sont des conditions durables avec l'Égypte, avec l'Arabie, ce qu'il eût cru, avec l'Arabie saoudite, avec le Koweït. De l'autre côté, il y a l'Iran. L'Iran qui sont des personnages qui sont, j'en reviens, moi, l'Iran, corrompu, terroriste, ces ayatollahs, c'est pire que tout, ces ayatollahs.
Vous avez senti, lors de voyage en Iran, l'attitude du peuple iranien à l'égard de ses dirigeants?
Accablé. D'abord, les Iraniens ont perdu 500 000 hommes dans la guerre contre l'Irak. Ils sont accablés, 800 000 hommes, on dit d'ailleurs. Ils sont accablés, ils n'ont plus envie de faire la guerre. Les ayatollahs ont tout pris. Ils ont 20% du revenu national à eux tout seuls. Ils sont arrivés les mains dans les poches quand même. Hein. C'est-à-dire que la corruption, ils connaissent. Le frère de Khamenei était une des personnalités les plus riches d'Iran. Il n'avait rien au départ. Ils ont une armée à eux. Hein, les passes d'Aran, c'est à eux, c'est pas l'Iran, les passes d'Aran. Les passes d'Aran sont directement sous l'autorité de Khamenei. Et ils ont 120 000 hommes, surarmés, alors que l'armée iranienne, elle se contente d'avoir des bouts de bambou pour se battre. Elle n'existe pas, l'armée iranienne. C'est-à-dire que ce peuple est tenu en laisse. Et c'est un beau peuple, les Iraniens, vous savez. C'est un beau peuple, artiste et tout. Et moi, j'ai senti un peuple accablé, mais qui sent qu'il ne peut pas résister, qui résiste encore. Il y a quelques types qui se battent, mais enfin, à mon avis, ils souffrent, hein, parce que l'embargo les refait mal. Ils souffrent, ils ont peur, car c'est un état policier, quoi. Personne ne le dit, c'est un état policier et c'est un état très dur. C'est là qu'il y a le plus de condamnations à mort. Hein.
Je suis étonné, Claude Gosken, vous ne me parlez pas du nucléaire iranien.
Ah non, mais ça c'est encore autre
chose. Et de ce qui est, c'est oui. Accru d'une façon incroyable, sous
non,
les
moi,
yeux
vous m'avez demandé
très
ce
doux.
Que pense,
non,
ce que
non,
pense
mais
le peuple.
Je ne vous l'avais pas demandé, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même une angoisse. Le nucléaire iranien, tout le monde le regarde de loin, se développer à vitesse grand V.
Bien sûr, on en a là pour 2 ans. Le nucléaire iranien est prêt depuis de longues années.
Et comment vous expliquez la passivité de notre gouvernement?
Notre gouvernement essaye de temporiser. J'étais avec eux, moi, j'étais avec des représentants officiels. Les Américains font le jeu dans une affaire comme ça, car c'est eux qui, en réalité, tiennent la main. Et les Français se disent, après tout, en étant un peu bien avec les Iraniens, le jour où ça cédera, on arrivera à avoir des avantages économiques. Et je crois qu'on est un peu dupes. On est dupes de ces Iraniens. Il faut voir que les diplomates iraniens, hein, c'est quelque chose. Je peux vous dire, c'est l'équivalent des députés.
C'est eux qui, en réalité, tiennent la main. Et les Français se disent, après tout, en étant un peu bien avec les Iraniens, le jour où ça cédera, on arrivera à avoir des avantages économiques.
Vous savez, Claude Gosken, sur l'Iran, les Israéliens ont tout dit les premiers. La France, Fabius, ne voulait pas signer avec les Iraniens ce compromis absurde qui a été poussé par Obama. La France a une attitude qui est une attitude comme avec les Turcs. C'est-à-dire, on laisse faire, on fait patte douce. Là, actuellement, on a un problème avec les Turcs. C'est quand même incroyable ce qui se passe en Turquie. Voilà un homme qui attaque la Syrie, qui franchit les lignes, qui est franchi d'une manière extraordinaire, contrairement à l'accord de Sotchi avec les Russes, qui canarde, parce qu'il est quand même... Il traverse la frontière et qui, évidemment, se fait bombarder par les Russes et qui gueule contre les Russes. Très bien. Très bien. Parfait. Qui est-ce qui paye? C'est nous. Car M. Erdogan dit, bon, eh ben, puisque l'Europe ne nous soutient pas, on va vous en donner un plus, sauf si vous payez. 4 milliards, 5 milliards. Enfin, c'est du chantage, le chantage le plus abject sur des individus qui n'ont rien demandé. Ce sont même pas des réfugiés syriens. Il y a de tout là-dedans. Il y en a plusieurs millions. Et l'Europe, regardez, l'Europe, au fond, négocie, on essaye de trouver des accords. Nous sommes avec ce type-là dans une situation d'un type qui a perdu toute conscience, qui se prend pour un sultan ottoman, mais qui ne l'est pas.
Écoute.
Écoutez, il nous reste 5 minutes. Je voudrais vous interroger sur deux points.
Oui.
Le premier, c'est quel est. Vous venez de publier un rapport à l'Assemblée nationale. Oui. Vous nous avez dit deux mots. Il va sortir. Quelle stratégie pour la France dans le Moyen-Orient en pleine mutation ? Et vous me disiez tout à l'heure, et je dois vous dire que ça m'a fait plaisir, Israël sans Netanyahou ne peut pas exister.
Ah oui.
Enfin, ne peut pas exister. Oui, moi je, ne je peut le pas dis persévérer. Voilà.
Je crois que les Israéliens, je n'ai pas à juger
la démocratie israélienne. Non, non, on parle.
Qui entreprend une violence incroyable, incroyable. Mmh. La France à côté, c'est vraiment des bisounours. Hein. Ouais. Mais très franchement, le problème de Netanyahou, c'est qu'il est l'incarnation au Moyen-Orient de la force et de la pérennité d'Israël, avec Trump. Et que la remise en cause de Netanyahou, qui aura peut-être lieu sur une combinaison démocratique que j'ai pas jugée, ça aura des conséquences sur le plan international. Pourquoi ? Parce que les alliés d'Israël, qui sont en même temps les alliés de Trump, les Saoudiens, les Égyptiens, l'homme fort est tombé. Et vous connaissez le Moyen-Orient, vous connaissez la mentalité du Moyen-Orient. Quand l'homme fort est tombé, ça veut dire que tout est possible. Et vous allez avoir un regain de violence, parce qu'on se dira, s'il est tombé, on peut faire des choses. Ils réussiront pas, je m'inquiète pas. Mais voyez ce que ça va donner. Alors j'essaye d'expliquer ça, modestement, du côté où je suis. J'ai essayé d'expliquer ça au Quai d'Orsay. Que la chute de Netanyahou, c'est pas une bonne chose même pour la France. Que la France devrait comprendre une bonne fois pour toutes que Israël est une grande puissance. une grande puissance démocratique. Et qu'on ne pourra pas faire de politique crédible sans un accord avec Israël. De plus,
c'est la fatigue de la campagne.
Mais de plus, je ne veux pas qu'Israël soit simplement une colonie américaine.
Bien entendu.
Parce que j'ai quand même un attachement méditerranéen pour Israël. Et par conséquent, je trouve que la France est en train de perdre encore un pari historique. Qui a sans doute été défendu dans les années 70. Bon, passons.
Il y a une émission récemment sur le sujet.
Et écoutez, il est temps peut-être de revenir vers des choses qui sont des choses concrètes, quoi.
Bien entendu.
Israël, c'est la grande puissance. Tout le monde a besoin d'Israël au Moyen-Orient, au Yémen, en Arabie Saoudite, partout. En Méditerranée, le pétrole, le gaz, avec ce nouveau contentieux qu'il y a en Méditerranée entre Chypre, la Turquie, le Liban et Israël. Désormais, la Méditerranée va devenir une structure de premier plan dans la lutte énergétique. Alors quand je dis la Méditerranée, tout le monde s'en fout. Mais personne ne va s'en foutre, vous allez voir. Et là, il faudra bien travailler avec Israël.
Je voudrais terminer en vous demandant de lancer un message à notre communauté et bien sûr au 16e arrondissement. Il ne s'agit pas de faire de communautarisme, c'est pas le but. Mais nous avons toujours travaillé ensemble depuis maintenant, je crois, 30 ans, ce qui ne nous rajeunit pas, mais je crois qu'on a bien travaillé dans ce quartier. Je crois que la communauté juive va soutenir plein pot votre liste dirigée par M. Spider.
Oui.
Et que nous avons besoin, moi je le dis très clairement et très franchement, et les gens savent que
participation.
Nous avons besoin que les gens aillent voter, qu'ils fassent voter autour d'eux, et nous avons besoin que vous soyez, vous, Claude Goasguen, dans cette liste, parce que vous lui donnez l'image, pour nous, de la sécurité de notre communauté que vous avez toujours défendue. Je me souviens de notre première manifestation, c'était déjà il y a 25 ans devant l'ambassade d'Iran à Paris.
C'est vrai, hein.
Et je crois que depuis nous ne sommes pas quittés et je suis de ceux qui disent que la communauté doit vous aider à franchir ce nouveau pas comme elle vous a aidé au deuxième tour des élections, dernières élections législatives. Je crois qu'on va encore gagner, il faut vous soutenir. Alors qu'est-ce que vous avez à leur dire ?
Moi, je veux leur dire que ce que nous avons fait ensemble, il faut le conserver, le développer. Nous sommes devenus un modèle pour Paris. Moi, je veux que Paris soit un modèle pour l'Europe parce que ce travail que j'ai fait dans le 16e, je continuerai à le faire à Paris avec Rachida Dati. Et ce travail, je le ferai avec la communauté. Pas pour la communauté seulement.
Bien sûr.
Parce que je crois que c'est l'intérêt de la France. Et par conséquent,
la communauté
voudrais.
Fait partie intégrante.
Mais c'est l'intérêt de l'image de la France.
Bien sûr. Hein.
Et surtout de pas faire de complexe. Je voudrais dire que, malheureusement, nous avons des listes dissidentes qui ont un peu truqué le scrutin. C'est très pénible. Ça nous a beaucoup agacé. Mais qu'avec Rachida Dati, nous avons une seule liste. Et qu'il faut que Rachida soit largement en tête si on veut pouvoir exister au deuxième tour. Que par conséquent, toutes ces listes dissidentes, parce que maintenant, Dati devient d'une popularité incroyable.
Bien sûr.
Les types qui ne voulaient pas de Dati, maintenant, il n'y a plus que Dati, parce que Dati sert à faire élire. Et ce n'est pas un peu ce que je reproche à Mme Jazzy et à Mme Esperonnier. C'est qu'en réalité, en disant j'aime Dati, elles se disent comme ça, ils vont voter pour moi et je serai peut-être élu. Ça, c'est une supercherie qui n'est pas admissible. Je leur dis, ne tombez pas dans le panneau. Tout est respectable dans la vie politique.
Tous les votes,
tout est votre. On a droit de se présenter, mais là, on a un enjeu pour la communauté qui est un enjeu fort.
Un enjeu pour la Paris, pour la ville de Paris.
Et pour moi, parce que moi, c'est toute ma vie quand même.
Bien sûr. Hein,
c'est toute ma vie. Et vous savez, les hommes politiques, ils sont pas toujours fiers de ce qu'ils ont fait. Et ça, je suis fier de ce que j'ai fait. Franchement.
Merci beaucoup, Claude Gosselin.
Coulam.